Donc on va arriver au printemps, au début d'année, on va démarrer une nouvelle série. Et comme on vit des moments un peu difficiles, ils sont pas très joyeux. Donc l'idée était de voir de belles histoires dans la Bible. Et pour qu'on trouve du rafraîchissement, du ressourcement. Et donc, on va pas faire de la très, voire des épîtres très compliquées, mais on va reprendre le livre de la Genèse, là où on l'avait laissé, c'était en 2018, je crois, quelque chose comme ça. Et on était arrivé, donc, à la partie du livre Genèse 22 avec le sacrifice de Isaac. On s'en était arrêté là. Et donc on va voir la suite. Alors quels sont les besoins de notre humanité aujourd'hui? Et quels sont les besoins personnels que nous avons également? Bon, vous connaissez l'humanité, vous savez cette guerre qui occupe tous les esprits, qui nous perturbe dans notre quotidien et qui change jusqu'à nos conditions de vie par rapport à la vie qui devient plus chère, l'énergie qui devient plus chère, les aliments qui deviennent plus chers. Quels sont également nos besoins personnels? Je crois que notre monde a besoin de bénédictions, que Dieu nous fasse du bien et que nous aussi nous avons besoin de bénédictions, que Dieu nous fasse du bien. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham, vous savez, il avait dit de quitter son pays. On trouve ça en Genèse chapitre 12. Je vais vous lire le passage. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, à cette époque-là, il s'appelait Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une bénédiction universelle, une bénédiction personnelle aussi pour Abraham. Je te bénirai et toutes les familles de la terre dont nous faisons partie et dont l'humanité entière fait partie sera une source de bénédiction. Et en chapitre 22, on avait terminé par cette confirmation de cette bénédiction qui allait être donnée par Abraham. Genèse 22, 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et donc, une bénédiction qui est là. Et nous sommes concernés, donc. Même si ces paroles ont été prononcées il y a 4000 ans maintenant, ça peut sembler bien loin. L'alliance de Dieu avec Abraham, donc Dieu a fait alliance avec lui en Genèse chapitre 15, vous savez, il lui apparaît, il lui dit, Abraham lui dit, mais je pars, j'ai personne, j'ai pas de fils, qui sera mon héritier? Et donc Dieu le conduit dehors, lui montre la voûte céleste et lui dit « Compte les étoiles si tu peux. Telle sera ta postérité. » Et là, il est dit que Abraham crut Dieu. Abraham a cru à Dieu et ça lui a été imputé à justice. Il a été considéré comme juste parce qu'il avait cru ce que Dieu disait. Donc ça, c'est la clé de la justification qui sera développée dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et qui nous concerne. Dieu fait alliance en Genèse 15, Dieu établit l'alliance en Genèse 17, donc là Dieu est passé entre des animaux qui étaient séparés, c'était une pratique de l'époque pour sceller une alliance. Dieu a établi l'alliance en Genèse 17, il change le nom d'Abraham et il lui donne la circoncision. Il y avait une condition pour faire partie de l'alliance, c'était être circoncis. C'est tout. Et donc l'alliance de la bénédiction, avoir l'Éternel pour Dieu, faire partie du peuple de Dieu. Et donc l'alliance est confirmée ensuite, on vient de le lire en Genèse 22, il répète, et Dieu s'engage, je le jure par moi-même. Il ne peut pas y avoir d'engagement plus élevé que Dieu puisse nous proposer, nous présenter que celui-ci. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Il y a l'alliance de Dieu avec Abraham, la promesse. Et il y a aussi le couple d'Abraham et de Sarah. Alors on avait regardé leur vie, on avait également développé ça dans le cadre des réunions de couple. On n'a pas été au bout de toute la série qui était envisagée au départ, mais on a fait quand même quelques réunions. Un couple type, hein, Abraham et Sarah, qui sont profondément humains, ils sont très attachants, leur humanité, on se sent proche d'eux. C'est un couple qui nous est décrit dans son jus, hein, tel qu'il est, tel qu'il vit, admirable par certains côtés, quand on pense à l'intercession de Abraham pour son neveu Lot, le souci qu'il avait de la famille, c'était beaucoup de choses admirables, mais aussi des choses plus pitoyables, hein, quand Abraham et Sarah font un arrangement pour avoir un fils que Dieu semblait leur refuser, et ils essayent de le faire par leurs propres moyens, et ça va être une vraie catastrophe qu'ils devront assumer aussi. Et un couple qui est solidaire, on le voit dans leur vie de couple, la façon dont ils fonctionnent, c'est pas simple tous les jours. Un couple profondément humain, mais un couple croyant. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé cela. C'est un couple modèle de la foi. Le père des croyants est appelé Abraham. Et en cela, ils sont le grand exemple que Dieu nous laisse. Et bon, chapitre 11, c'est par la foi, chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, 11, 8, lors de sa vocation, de son appel, obéit et partit pour un lieu qui devait avoir un héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle avait cru la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Abraham et Sarah, des croyants. Abraham et Sarah, des personnes qui sont bénies. Quand on avait vu tout ce passage de leur vie, mais même quand ils font des bêtises, des erreurs, mais Dieu les bénit quand même, il les protège, il les garde, et ils reçoivent des cadeaux, on comprend pas pourquoi. Et ils sont bénis, finissent d'une très longue vie. Abraham et Sarah sont bénis. Notre Père aussi et notre Mère, si nous sommes chrétiens, nous avons été greffés dans la filiation d'Abraham. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Mais c'est ce que affirme le Nouveau Testament. Ça fait partie des versets qu'on aura à apprendre. Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Je vais vous le lire tout de suite. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Galates chapitre 3. Versets 28 et 29. Et il y a un autre beau passage en Pierre également, quand il parle des relations entre les hommes et les femmes, il fait référence à Sarah pour les dames. Vous êtes Sarah, vous êtes fille de Sarah, dit-il aux dames. Et c'est une très belle référence, donc, le couple de Abraham et de Sarah, le couple qui est le plus développé, dont le portrait est le plus développé dans la parole de Dieu. Mais alors, quelle est la suite de l'histoire? Quelle va être l'histoire du fils qu'ils ont eu, Isaac? Qu'est-ce qui va devenir? Comment la postérité va-t-elle arriver? Comment cette multiplication va avoir lieu? Et qu'en est-il de cette bénédiction? Comment va-t-elle se manifester cette bénédiction, et comment elle va aussi se manifester pour eux, mais moi, si je suis, comme Dieu le déclare, de la descendance d'Abraham, comment cette bénédiction va se manifester dans ma famille, dans ma vie personnelle, dans mes projets, dans ma famille, dans mon église? Comment tout ça va pouvoir se mettre en œuvre? Et donc, c'est tout le défi et le challenge que nous avons à avoir devant nous, de dérouler la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui est arrivé? Et le fil rouge, ce sera, mais cette bénédiction, qu'est-ce qu'elle devient? Cette promesse de Dieu, comment elle s'accomplit? Comment elle se réalise? Et je crois que cela va être très encourageant et aussi des choses très très proches de nous, très pratiques, pour nous encourager dans la vie de tous les jours. Alors, on était à Genèse 22, donc, et on va faire Genèse 23 pour aujourd'hui, que je vais vous lire. Donc, Genèse chapitre 23, vous pouvez suivre avec moi si vous avez vos Bibles. Genèse chapitre 23. Verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth, ou Hittite. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je le ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi Éphron, fils de Tsokar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, et de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale, sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron, le Hessien, répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, je te donne la caverne qui y est, je te donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie, je te donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'enterrerai mon mort. » Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est entre toi et moi ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et toutes les limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. La porte de la ville, donc, c'est l'endroit officiel où se rendait la justice et se réglaient les affaires administratives. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Chapitre 23. Alors l'histoire, c'est clair, Sarah est morte. Elle est décédée, elle était âgée, mais c'est pas ce qui rend la séparation moins douloureuse pour Abraham, on l'imagine. 127 ans, c'est une longue période, quasiment toute sa vie. Abraham l'avait passé en compagnie de sa femme, Sarah. Et plus on passe de temps ensemble, plus la séparation est douloureuse. Alors, peut-être des personnes seront mieux placées pour vous en parler que moi. Mais notre texte dit, Abraham a mené deuil et il a pleuré sa femme. Mais que faire du corps ? Abraham n'a rien prévu. Et la compassion des gens envers lui, la compassion des gens du pays envers lui est touchante. Choisis le tombeau que tu veux, on te le prête. On n'aura pas honte d'accueillir dedans ta femme, tu es un prince de Dieu. Loin de là, on n'aura pas honte. Vas-y, choisis le tombeau que tu veux. Mais Abraham lui préfère acheter un tombeau en bonne et due forme, avoir quelque chose qui lui appartient. Et non seulement, donc il désigne une grotte, et non seulement il va avoir la grotte, mais également tout le champ qui l'entoure et tous les arbres qui sont dessus, toute la parcelle de terrain, pas seulement la grotte. Et Sarah est enterrée, donc, et là, une page est tournée dans l'histoire d'Abraham. Ça, c'est l'histoire qui nous est racontée, mais qu'est-ce qui est les dessous, les enjeux de cette histoire? Ben là, c'est la première fois dans la Bible qu'on trouve le terme sépulcre, tombeau. C'est la première fois qu'il apparaît. Et donc, c'est la première fois qu'on nous parle d'un enterrement. Et donc, c'est donc un passage particulièrement important pour nous. Premier enterrement de l'histoire biblique. C'est également un déjà et pas encore. Déjà, le pays de Canaan avait été donné à Abraham sa femme, son fils Isaac. Il était à eux, mais ils n'en avaient pas encore la jouissance. Et ils vivaient là comme des étrangers, des sans domicile fixe. Quel paradoxe. Abraham est-il pris de court? On a l'impression qu'il n'avait absolument rien préparé. Ils étaient âgés, pourquoi Abraham n'avait pas prévu les obsèques, l'organisation de son départ? Il est entouré de personnes, là, les fils de Heth, qui eux sont tous équipés, tous ont de quoi, des tombeaux et des choses prévues pour leur départ. En tant que prince de Dieu, il aurait pu faire comme les puissants de son temps, se faire bâtir un grand tombeau bien décoré, magnifique, à la hauteur de l'image qu'il avait de lui-même. Abraham a-t-il été pris de court? Nous ne connaissons pas exactement les circonstances, mais en tout cas, il choisit un sépulcre en contre-culture. En contre-culture. Il choisit un lieu naturel. Une grotte naturelle. C'est à l'image un petit peu des autels qu'il, quand il a adoré l'Éternel, il rassemblait des pierres et il constituait un autel, les pierres qui se trouvaient là, sur place. Et donc, il va avoir un sépulcre qui est un peu à l'image de la façon dont il a toujours adoré Dieu, de façon très simple, pas de grande construction. Un lieu discret, un lieu souterrain, à l'abri des regards. Ça, c'est le dessous de son histoire, mais quelle est la suite de l'histoire? Alors, ce qui est extraordinaire, vous le savez, c'est que ce sépulcre dont il est question, il y a 4000 ans, cette histoire s'est passée. Ah ben, il existe toujours, on sait où il est, il y a toujours la grotte qui est là. 2000 ans plus tard, Hérode a fait construire autour du terrain une grande enceinte. Hérode, c'était Hérode le grand constructeur. Et il avait fait construire une enceinte autour du tombeau. Et donc cette enceinte, elle était là, elle est très bien conservée, paraît-il. Voilà une photo. Ça, c'est le plan avec le mur qu'avait fait Hérode, l'enceinte d'Hérode. Bien sûr, il y a eu toutes sortes de constructions qui ont été faites à l'intérieur successivement, juives, puis chrétiennes, puis maintenant musulmanes. C'est maintenant devenu une mosquée. Et donc, séparée en deux parties, une partie réservée aux juifs, une partie réservée aux musulmans, avec tout est bien codifié, avec ici les ça s'appelle des cénotaphes, voilà, qui représentent les tombes, mais ce sont pas les vraies tombes, ce sont des représentations. Et, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca. Et donc, ça c'est l'intérieur, avec les cénotaphes ici, là. Il y en a quatre qui sont identiques. Et où est la grotte, direz-vous? Ben, la grotte, elle est dessous. Elle est dessous, donc en haut, il y a toutes les installations et il y a deux puits qui descendent, qui sont reliés par un corridor et qui sont bâtis. Ce sont des constructions. Et en dessous ici, il y a des fameuses grottes ici. Alors l'endroit a été tenu secret pendant des siècles et des siècles, et même maintenant, le lieu ne se visite pas. C'est caché, c'est scellé, les entrées sont scellées, et il y a juste un témoignage de ceux qui, de l'intérieur, hein, parce que quand les croisés sont arrivés, ils ont découvert l'entrée, donc ils ont fait, ils ont décrit ce qu'ils avaient trouvé quand ils avaient fait l'exploration des lieux, et donc il y avait, je crois, les cavernes. Les grottes, mais il y avait que des amphores avec des ossements dedans, il y avait plus rien. Enfin, du moins, rien de. Mais à ce moment-là, ils ne faisaient pas de fouilles géologiques, bien sûr. Et donc, après avec l'arrivée du mois de mars, tout a été refermé. Et jusqu'à présent, c'est fermé. Ça ne se visite pas. Alors. C'est quand même un petit peu miraculeux que je trouve que ce lieu ait été conservé. Vous savez, les pharaons, à cette époque-là, construisaient des immenses tombeaux, des pyramides là qui défiaient le temps. Certes, les constructions sont toujours là, mais depuis très longtemps, elles ont été pillées, profanées, et personne ne se soucie de conserver la mémoire de leurs occupants. À grand-peine, ont-ils été identifiés ? Mais pour le tombeau d'Abraham, il est toujours là, il est toujours en place. Je crois que je vais donner une photo. L'escalier à l'intérieur, ça a été fait en cachette tout ça, de façon tout à fait en cachette. Et donc on n'a pas plus d'informations que d'avoir la certitude que le tombeau est bien là. Alors, Abraham, on peut dire qu'il a regardé vers l'avenir, je trouve. Il a pris possession de cette promesse. Le pays de Canaan lui avait été donné par Dieu, et c'est sur cette terre qu'il voulait être enterré. C'est là, c'est dans le pays que Dieu lui a donné qu'il voulait être enterré. Et donc il prend cette initiative, initiative qui a été agréée par Dieu, puisque jusqu'à présent, ce tombeau est parmi nous. Il prend possession de la promesse. Il choisit un grand sépulcre, hein, pour cette postérité qu'il a. Il choisit une grotte, et donc il y a tout un champ, il y a toute une parcelle. C'est un grand sépulcre pour une grande famille à venir. Le lieu est spacieux, capable d'accueillir beaucoup de défunts à venir. Dieu lui a promis une grande descendance. Et au-delà de tout cela, nous savons que Abraham est vivant. Abraham est vivant pour Dieu. C'est ce que a enseigné Jésus dans le temple de Jérusalem. Quand on remettait en doute, vous savez, la question de la résurrection des morts. Luc 20, 37, 38. Je lis. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants, dit Jésus. Pour lui tous sont vivants. Et Abraham donc qui a... regarder vers l'avenir. Garder vivantes les promesses de Dieu, c'était un petit peu le titre du message ou ce sur quoi je voudrais, pour nous, poser le focus. Garder vivantes les promesses de Dieu. Priorité à la vie. La mort est une chose qui est incontournable, il faut, comme on dit, vivre avec. Mais on ne peut avoir en tant que chrétien la certitude que son triomphe n'est que provisoire. Un jour, la mort sera, vous le savez, engloutie dans la victoire. Ça en sera fini. C'est l'enseignement de la Bible, l'enseignement du Nouveau Testament, l'enseignement de Paul, bien clair dans le chapitre 15 de son épître aux Corinthiens. La mort, un jour, sera engloutie dans la victoire. Tous les morts ressusciteront. En attendant, gloire à Dieu, la vie continue. Elle se transmet de génération en génération. Et donc, garder vivantes les promesses de Dieu, c'est donner priorité à la vie. Maintenant, quel sépulcre choisir? Comment on peut voir nos problèmes aussi que nous avons concrètement, comme Abraham, comme Sarah, nous ne serons pas éternels sur cette terre. Quelle recommandation allons-nous laisser pour notre corps? Est-ce vraiment important de le faire? Alors, peut-être on n'a pas du tout l'envie de penser à ces choses-là. Ne nous culpabilisons pas qu'il en soit ainsi, parce que on voit qu'Abraham, lui, s'est trouvé bien dépourvu. Et donc, ne nous culpabilisons pas si nous n'avons pas envie d'y penser. Abraham s'est trouvé dépourvu. Pour Isaac, ben, la réponse était toute faite. Il avait le tombeau qu'avait préparé son père. Donc, pour lui, il ne s'est pas eu besoin de se poser de questions. Jacob et son fils Joseph, eux, la Bible nous enseigne qu'ils ont laissé des instructions par rapport à l'endroit où ils devaient être enterrés. Donc, on trouve un petit peu toutes les situations à travers les textes qu'on va parcourir par rapport à ce problème concret qui va se poser à chacun d'entre nous. En France, nous avons le choix entre l'enterrement, vous savez, la crémation. Donc, soit le cimetière municipal, soit, ben voilà, il y a l'incinération qui est là. De ce que j'ai pu comprendre de la civilisation des Hittites, là, des fils de Heth, c'était quelque chose qui existait également de leur temps. Ils avaient le choix des deux possibilités. Et on peut donc laisser les considérations économiques ou les considérations pratiques décider. C'est ce que font beaucoup de nos concitoyens. On peut ainsi faire comme tout le monde. Mais on peut aussi, comme Abraham, faire un choix cohérent avec nos convictions. Et c'est ce qu'il a fait. Il a voulu faire quelque chose qui soit cohérent, qui corresponde à son espérance, qui corresponde à la promesse qu'il avait reçue. Abraham n'a pas cédé à la facilité qui lui est proposée. Alors, je vous dirai pas ce qu'il vous faut faire, bien sûr. Mais on a quelques éléments ici pour nous aider. Espérer contre toute espérance. Romains chapitre 4, versets 19 à 25. Espérer contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon qui lui avait été dit « Telle sera ta postérité ». Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu et en ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous que cela lui sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et être ressuscité pour notre justification. Espérer contre toute espérance, c'est notre appel, notre vocation à nous aussi. Notre espérance doit reposer sur les promesses de Dieu. Crois ce que Dieu a dit. Comme Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit ? Je crois ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi un formidable privilège que de pouvoir voir au-delà de nos circonstances qui sont parfois terribles, qui sont parfois douloureuses dans nos vies quotidiennes. Dieu a dit que, Dieu a promis que, alors je ne sombre pas dans le désespoir, je agis en fonction de la promesse que j'ai reçue, sans regarder les impossibilités qui semblent être là. Espérer contre toute espérance, vivre la promesse de Dieu. Et là, c'est un principe qui va au-delà de l'enterrement de nos proches. Abraham, c'est vrai qu'il a cherché un sépulcre qui soit durable pour lui, pour sa famille, dans ce pays. Mais il va aussi s'occuper de la suite pour son fils. Il fallait lui trouver une femme et il va prendre les choses en main. Pourtant, Dieu ne lui avait rien demandé. Dieu n'était pas intervenu pour lui dire « fais ceci ou fais cela ». Mais il y a là un principe pour nous de vivre notre vie chrétienne, de vivre en cohérence avec les promesses qu'on a reçues. Nous avons des décisions et des choix à faire chaque jour ou presque. Comment utilisons-nous notre temps, notre argent, nos projets ? Soyons cohérents avec la promesse de Dieu pour nous. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir ses promesses, ses prophéties, mais nous avons la possibilité d'être acteurs de l'accomplissement des promesses. Nous avons la possibilité d'entrer dans la prophétie, que ce soit quelque chose qui se réalise et dans lequel nous ayons une part active. C'est ce que Dieu nous propose et c'est on voit à travers ce qu'a fait Abraham, c'est ce que lui a fait. Il a agi, il a accompagné, il est rentré dans cette promesse et ses enfants, c'est ce qu'ils vont faire aussi à leur niveau. On verra ça donc dans les semaines à venir. Voilà ce que j'avais prévu de vous partager. On va prier. Seigneur, tu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es notre Dieu. Merci pour cette assurance que la mort n'est pas une fin, un anéantissement, mais que tu as déclaré qu'un jour, il y aura la résurrection des morts. Et un jour, nous allons, si nous mourons, si notre corps se détruit un jour, tu vas nous rendre un nouveau corps qui sera différent de celui que nous connaissons, Seigneur, et qui ne sera pas entaché et flétri et corrompu par le péché. Seigneur, merci pour cette belle espérance que tu nous as donnée. Merci également pour les bénédictions qui ont accompagné la vie d'Abraham. Et merci parce que ces bénédictions sont aussi pour nous. Et Seigneur, merci de nous aider à découvrir comment tu as pris soin de ton alliance, de tes promesses à travers la vie de ces enfants, tels que ta parole nous les rapporte. Merci Seigneur pour que nous puissions nous en approprier, nous aussi, et vivre notre parcours sur la terre comme Seigneur, d'une façon qui soit conforme à cette promesse que tu as donnée pour nous, et cohérent par rapport à ce que nous professons et par rapport à ce que nous croyons, Seigneur. Fais de nous des hommes, des femmes courageux des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils doivent faire, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce que c'est là leur appel. Et Seigneur, merci pour la continuité de la vie également. Merci pour les enfants que tu nous donnes, les petits-enfants que tu nous donnes et que tu donnes également à ton Église. Merci pour cette grande famille que nous avons là. Et nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir y prendre part et y participer. Merci pour ceux qui nous ont précédés, pour qui nous ont transmis le flambeau, qui nous ont transmis la foi, Seigneur, et que nous puissions à notre tour faire notre job. Dans le nom de Jésus, amen.